Session de philosophie sur la liberté par le père Philippe à Saint-Jodard, le 1er septembre 1988, 11e conférence.
Nous allons continuer cette recherche philosophique en partant de l'expérience de l'activité artistique, comprendre cette liberté propre à l'artiste, comme artiste, qui est, je ne dis pas une liberté, c'est une liberté particulière. Ce n'est pas la liberté typiquement humaine. Mais on voit bien que l'homme a diverses activités et que c'est lié à ces activités que je peux comprendre ces modalités particulières d'un acte libre. Et progressivement, par là, on pourra préciser qu'est-ce que c'est que la liberté. Donc il faut bien comprendre qu'en revenant à l'expérience est toujours particulière. C'est ce qui est très important. Vous voyez, on a une conception de la philosophie aujourd'hui qui fait que la philosophie, c'est l'universel. Ce qui est très faux. La philosophie part de l'expérience et elle ne quitte jamais l'homme existant. Elle a un mode scientifique. Mais l'universel, c'est la condition pour la connaissance philosophique et pour la connaissance scientifique. Mais le contenu de la connaissance n'est pas l'universel. Trop là-dedans, je le signale simplement. C'est très important. Parce que la logique regarde l'universel et la philosophie regarde l'homme existant. Mais alors, c'est ici exactement la même chose. Nous regardons l'artiste dans une de ses activités propres. Qui est cette liberté qu'il possède en fonction même de son activité artistique. Son activité artistique lui donne cette liberté à l'égard d'un contexte dans lequel il se trouve. Il devient un loup au milieu des chiens. Et le chien ne comprend jamais cette liberté de l'artiste. Parce qu'il la regarde de l'extérieur. Il dit, oh, ce qu'ils sont fantaisistes. Impossible de pouvoir vivre avec eux. Alors que l'artiste, dans cette liberté, sauvegarde sa finalité propre. Sa finalité propre qui est de réaliser une œuvre. Et c'est en fonction même de cette œuvre qu'il doit réaliser que, de fait, il aura cette liberté qui va se manifester surtout dans le fait qu'il peut refuser telle ou telle demande. Et cette liberté se manifeste en premier lieu dans le fait qu'il peut réaliser telle chose, qu'il accepte de réaliser telle chose, ou au contraire qu'il refuse. Et cette liberté de refus, je suis libre de réaliser cette œuvre, ce n'est pas les hommes qui sont autour de moi qui ont une autorité. Mais au fond, ça repose sur quelle est l'autorité de l'artiste. Quel est son dominium. Comment a-t-il, par rapport aux autres, quelque chose qui lui donne cette autonomie, cette responsabilité à l'égard de son œuvre. Il est lié à son œuvre. Et ce lien avec son œuvre qui lui provient de son inspiration, lié à son travail, c'est bien évident, je ne sépare pas. C'est en fonction de ton travail, commandé par l'inspiration, que l'artiste acquiert progressivement cette autonomie. Il l'acquiert, il ne l'a pas du tout au début. Un artiste, quand il commence, a très peu d'autonomie, surtout dans le monde d'aujourd'hui. Avant, il y avait le mécénat qui permettait à l'artiste d'acquérir très vite une autonomie, mais maintenant il n'y a plus. La sainte démocratie supprime ça. Et donc l'artiste doit lui-même découvrir cette autonomie, ou plus exactement, conquérir cette autonomie d'artiste. Tous les artistes au point de départ ont une peine énorme, ils sont dépendants. Et ils sentent très bien qu'ils doivent acquérir cette autonomie pour maintenir leur art. Et s'ils sont dépendants, et s'ils acceptent cette dépendance pour des raisons extrinsèques à leur art, il faut bien qu'ils gagnent leur vie, qu'ils gagnent leur compte, puisqu'il n'y a personne pour les aider. À ce moment-là, ils perdent ce qu'il y a d'essentiel en eux. Ils le sentent. Et c'est leur souffrance. C'est dans la lutte que l'artiste acquiert cette autonomie. Oui, il devient progressivement loup. Il ne naît pas loup. Non, il est comme tous les autres hommes. Et la bosse, hein, comme dit Topfer, ça s'acquiert. Ça s'acquiert. Ça s'acquiert grâce à l'inspiration et au métier. Parce que le métier et l'inspiration vont de pair. L'inspiration se maintient grâce au métier. Et le métier sans l'inspiration n'est que du métier. Et l'inspiration sans le métier se perd très vite. Parce que l'inspiration de l'artiste demande de se réaliser. Et je ne crois pas qu'il faut couper un peu ce que fait Maritain. Maritain sépare l'inspiration de la réalisation, donc du métier. Il dit techné, c'est la technique. Pas du tout. L'art est à la fois inspiration et réalisation. Un artiste qui ne réalise rien n'est pas un artiste. Il dira, je suis poète, je porte tout ça en moi, mais montrez-le, réalisez-le. Vous voyez, c'est très important parce que c'est pour saisir quel est le fondement de l'autonomie de l'artiste qui lui permet d'avoir cette liberté, qu'il acquiert. Ça, c'est très très net. Un jeune artiste a peu d'autonomie. Il le sent, il sent qu'il y a en lui, grâce à son inspiration qu'il porte, qu'il est capable de réaliser quelque chose. Mais au début, comme il est très peu réalisé. Alors quand je dis que le fondement de cette liberté, c'est l'inspiration, comprenez bien, c'est l'inspiration réalisée à travers le métier dans l'œuvre. Et d'une certaine manière, c'est son œuvre qui manifeste son inspiration, qui exprime son inspiration, qui lui donne cette liberté. C'est pas l'œuvre séparée de lui, puisqu'il peut la vendre. Vous voyez, il ne peut pas vendre son autonomie, mais il peut vendre l'œuvre. très curieux. Il peut la vendre ou la donner. C'est pour ça que ce n'est pas uniquement l'œuvre. Un artiste n'est pas libre à cause de son œuvre. Il est libre à cause de son inspiration qui se réalise dans son œuvre. Et c'est la qualité de son inspiration. C'est ici qu'il faudrait voir qu'est-ce que c'est que l'inspiration, vous voyez. Si on voulait vraiment étudier, qu'est-ce que c'est que la liberté de l'artiste. On verrait que l'inspiration, c'est difficile du reste à bien préciser, que l'inspiration implique en premier lieu une activité intellectuelle. L'artiste, au très grand sens, est un intellectuel. Mais un intellectuel d'un caractère tout à fait particulier. C'est pas ce qu'on appelle les intellectuels. Mais c'est un être intelligent en premier lieu. Intelligence liée à l'imaginaire, liée à l'affectivité et liée au sensible. Et liée à ses instruments. C'est ça que c'est si intéressant, le lien de l'artiste et ses instruments. Parce que l'instrument conditionne, ne détermine pas, mais conditionne. Et fait que l'artiste, progressivement, est l'artiste de tout un climat qu'il réalise autour de lui. Oui, c'est comme un grand arbre, un grand chêne, crée autour de lui un climat. L'artiste n'aime pas que l'étranger pénètre dans son sanctuaire. Il a sa liturgie. Sa liturgie, c'est suivant qu'il est peintre, suivant qu'il est poète, suivant qu'il est... C'est tout un contexte, c'est tout un milieu de vie. Et tout ça fait partie de l'artiste, oui. C'est un animal particulier qui se construit sa maison. Mais sa maison, c'est son sanctuaire. Et il n'aime pas que d'autres pénètrent. Et dès que vous pouvez pénétrer par l'amitié, vous sentez tout de suite ça. Vous sentez ce climat dans lequel l'artiste doit travailler. Pourquoi ? Parce que ce climat lui donne sa liberté intérieure. Et que quand il est dans un autre climat, il n'a plus cette liberté intérieure. C'est que c'est très mystérieux de voir qu'est-ce que c'est que la liberté d'artiste. Elle se manifeste dans le fait qu'il refuse. Non, je ne ferai pas ça. C'est en dehors de ma grâce. Ou bien dira, j'accepte parce que je ne peux pas faire autrement. Mais au-dedans de la nécessité dans laquelle il a de réaliser la chose, il y a tout un climat qu'il se crée lui-même, qui est le fruit de tout son travail, qui est le fruit de l'œuvre. Il s'entoure de toute quantité de choses qui viennent de lui. Et c'est dans ce climat que cette liberté intérieure va se maintenir. Alors vous voyez, il y a les deux choses, c'est ça qui est curieux. Liberté extérieure, très facile à comprendre, mais il y a une liberté intérieure. Cette liberté intérieure pour sauvegarder cette nécessité, les voies déterminées de l'art, comme dit saint Thomas à la suite d'Aristote. Les voies déterminées de l'art. Mais ces voies déterminées de l'art réclament une liberté intérieure. Il faut une grande liberté intérieure pour être fidèle à ce qu'on porte. Vous voyez donc, il faut bien comprendre ces deux libertés. Alors on peut peut-être essayer de les préciser. Parce que je crois qu'il y a ces deux libertés. Il y en a une qui se manifeste très bien, et on voit ça très bien. C'est pour ça que souvent, c'est pas commode de parler à des artistes. vous renvoie balader. Ils voient tout de suite, hein. Parce qu'ils ont dû conquérir leur liberté. Et c'est comme tous les gens qui doivent conquérir leur liberté. Ils sont un peu farouches. Ils savent que ça a coûté cher. C'est pas commode. Oui. Alors on dirait qu'ils ne sont pas généreux. Ils sont très généreux dans leur ligne. Mais ils ont tout axé vers l'œuvre. Et ils reprenaient. Alors évidemment, il y a un tempérament différent. Vous trouverez ça, ça se mêlera à tout le tempérament de l'artiste. Et comme c'est toujours quelque chose de très singulier, l'art est toujours quelque chose de très singulier et d'individuel. Ça ne se répète pas une œuvre d'art. C'est toujours unique. Alors on peut faire du travail en série, mais c'est plus de l'art. C'est plus de l'art. Et ça fait toujours mal à l'artiste quand on se sert de son œuvre pour faire un travail en série. Parce qu'on abîme quelque chose. Et l'artiste le sent. Je voyais la réaction récemment d'un sculpteur de voir que son œuvre, il a la conviction que c'est original et que c'est quelque chose qu'il porte en lui et qu'on se sert de ça pour faire un travail en série. Alors ça le brise comme artiste. Vous voyez, le passage de l'individuel à l'universel, à la série. Et le travail en série n'est plus artistique. C'est de l'ordre économique. C'est à cause de l'économie qu'on fait ça. Il faut bien que ça se vende. Il faut bien que ça se rapporte. Alors que l'œuvre comme telle n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Mettre un prix auprès d'une œuvre artistique, c'est idiot. Et pour l'artiste, c'est idiot. C'est les amis qui disent qu'il faut mettre un prix. L'artiste, ça n'a pas de prix, quoi, ça ne se vend pas. Au sens strict, c'est pas quelque chose d'utile. Dès que ça se vend, c'est de l'utile. Alors que l'œuvre d'art comme telle ne l'est pas. Si je veux saisir la liberté de l'artiste, il faut comprendre le lien entre l'inspiration et l'œuvre, de comprendre ce lien tout à fait individuel qui va donner à l'artiste une autonomie farouche. Farouche parce que elle est propre à l'artiste. Et comme elle est individuelle, elle est chaque fois différente. Elle est toujours la même, mais chaque fois différente. Et surtout quand l'artiste pense qu'il a atteint quelque chose qui est vraiment de lui. Qu'il a pu exprimer ce qu'il avait de plus personnel, de plus individuel, de plus original dans le sens inédit. Alors il est farouche à ce moment-là. Il y a quelque chose de très spécial là. Alors voyez, c'est donc ce lien entre l'inspiration dans toute sa complexité. Oui, le philosophe distingue différents moments. L'artiste les vit dans la continuité. C'est en réalisant la chose que l'inspiration se précisera. C'est évident. Même si on fait une petite maquette, pour le sculpteur, il a besoin du travail, du métier et de ses outils pour que l'inspiration se précise. Et sa liberté qui s'acquiert en fonction même de son inspiration qui se réalise. C'est l'œuvre réalisée qui donne à l'artiste son autonomie. C'est en sens ça qu'il l'acquiert. Cette autonomie donc est double. Le fait s'il a vraiment acquis cette autonomie, il est libre à l'égard du contexte humain dans lequel il se trouve. Par rapport aux commandes, il pourra accepter ce qui est dans le sens de son génie, dans le sens de son art, et refusera le reste. Et la mesure de l'acceptation et du refus vient de cela. C'est lui seul. C'est pas un autre. C'est lui qui pourra accepter. Oui, ça me convient. Je crois que là, c'est dans le sens. À tâtons, parce que tant que la chose n'est pas réalisée, on ne peut pas le savoir exactement. Puisque l'inspiration n'est parfaitement déterminée, que dans le dernier coup de ciseau, dans le dernier moment, et comme c'est jamais absolument terminé, l'inspiration demeure tout le temps. Ça rebondit, c'est extraordinaire. Ça c'est la vie, au point de vue profond de l'artiste. Vous voyez, fondement de cette liberté, c'est donc l'inspiration liée à l'œuvre qui lui donne son autonomie. Et c'est la réalisation de l'œuvre qui fait cela. À ce moment-là, il a cette autonomie par rapport au contexte extérieur et il a une liberté intérieure. Mais cette liberté intérieure, faisons attention, elle est tout entière ordonnée à la nécessité impérieuse de réaliser l'œuvre. Ce n'est pas un dilettantisme. L'artiste a horreur du dilettante. C'est le philistin. Mais il touche à tout. Qui croit que c'est ça être l'artiste, le dilettante. L'artiste n'est pas un dilettante. Il est lié à l'œuvre qu'il fait. Et cette œuvre qu'il fait est quelque chose d'impératif pour lui. Ça le saisit. Alors, vous voyez, il y a une liberté intérieure qui permet d'élaguer. Et c'est là où je crois qu'on retrouverait cette purification intérieure chez l'artiste. Toute purification, il y a une ascèse de l'artiste, il y a une purification qui n'est pas du tout une purification morale, qui est à l'intérieur de son art, c'est-à-dire à l'intérieur du facere, de la réalisation. Cette purification, c'est que de plus en plus, ce soit le nécessaire. Tout ce qui est contingent est à élaguer. Vous voyez comment la liberté qu'il a, c'est pour que le nécessaire apparaisse. Il y a une nécessité artistique qui s'impose. Alors là aussi, ce serait très intéressant de bien regarder le caractère différent de cette nécessité de l'artiste avec la nécessité scientifique. C'est un caractère tout autre. Mais c'est une nécessité. L'artiste encore est, je vous dis, il est saisi, il est pris par la réalisation. Vous voyez que c'est très difficile à préciser le caractère de cette liberté. Bon, ce qui m'intéresse au point de vue philosophique, je vous le dis tout de suite parce que c'est ça qui va nous permettre de comprendre la complexité de la liberté. C'est que je crois que là on peut dire que le fondement de cette liberté, c'est vraiment l'inspiration. Mais l'inspiration liée à l'œuvre réalisée. C'est pas la pure inspiration. Du reste, la pure inspiration n'existe pas. L'inspiration toujours liée à la réalisation. Vous voyez, c'est ça qui explique comment que le lieu où l'artiste travaille, c'est son sanctuaire. Parce qu'il sait que l'inspiration, elle aussi, grandit en fonction de son travail. Vous voyez, si je sépare le travail de l'inspiration, je tombe dans la fabrication. Exécuter. Et une exécution séparée de l'inspiration n'est plus de l'art. C'est l'exécution, c'est la fabrication. C'est plus de l'art. Tandis que chez l'artiste, le travail est toujours lié à son inspiration. Et c'est pour ça qu'il n'aime pas de travailler sous le regard d'un étranger. Il ne peut pas, ça le paralyse. ce que Rilke dit, il lui faut la solitude. Il a besoin de la solitude. Il a besoin de la solitude pour maintenir sa liberté. Et grâce à cette liberté, la purification pourra se faire de plus en plus. Le nécessaire s'imposera de plus en plus. Alors ça, c'est intéressant parce que ça montre que la liberté de l'artiste est une liberté qui s'acquiert dans la nécessité. Et pas du tout dans l'indifférence. Un artiste qui commence à dire « Oh, j'aurais pu faire autrement. » Non, ça prouve que c'est pas réussi. Tant que la nécessité ne s'impose pas, ça prouve que l'inspiration n'a pas atteint jusqu'au bout. Les voies déterminées de l'art. Oui. Et c'est très intéressant de voir que cette liberté, c'est une liberté non pas de choix, mais d'exécution. Alors voyez, si vous voulez mettre en parallèle, vous voyez que ce que Descartes dit de la liberté, c'est très proche, tout en étant très loin, d'une liberté artistique. C'est la liberté du Créateur. Et c'est pour ça que cette liberté le conduit à Dieu. Mais ce que Descartes n'a peut-être pas assez vu, parce qu'il met comme fondement de cette liberté, mon Dieu, l'indifférence. Non. C'est pas l'indifférence qui est le fondement de cette liberté. C'est l'œuvre qu'on réalise qui permet de discerner tout ce qui est contingent du nécessaire. Et c'est ce nécessaire qui s'impose, élaguant toutes les choses contingentes, possibles. Je regarde maintenant parce que ce sont les diverses modalités qui nous permettent de mieux comprendre la diversité. Je regarde maintenant l'autre type de liberté, tout à fait différent. La liberté de l'ami. Un ami, l'amitié, l'amour d'amitié. Je prends toujours l'amour d'amitié. Je ne vais pas reprendre ici toute l'analyse de l'amour d'amitié. Mais au cœur de l'amour d'amitié, il y a le choix libre. Et l'amour d'amitié n'existe et ne grandit que grâce à ce choix libre. Le jour où il n'y a plus ce choix libre, l'amitié disparaît. Mais un succès d'année. Et qui dit un succès d'année fait que l'amour d'amitié n'est plus en acte. Ça, je crois que c'est très important, c'est le noyau, voyez. Parce que, comme toute chose, hein, n'oublions jamais, l'être humain est un être qui est toujours très limité par le conditionnement et qu'il a beaucoup de peine de maintenir en acte sa finalité. Un être humain vit, humainement parlant, dans la mesure où sa finalité s'impose à lui. L'artiste vit dans la mesure où la nécessité de l'œuvre s'impose à lui. Dans l'amour d'amitié, sa finalité, c'est le choix de l'ami, qui est regardé comme le bien de l'ami. L'ami devient le bien de l'ami, devient sa propre fin. L'ami est finalisé par l'ami. Quand je dis finalisé, il faut le comprendre au sens très fort, au plan philosophique. C'est-à-dire que le bien est toujours quelque chose qui me dépasse, quelque chose qui m'attire, et quelque chose qui me permet d'aller plus loin. Comprenez bien. Autrement, c'est plus le bien. Vous allez tout de suite comprendre. Hein? Mais ça, c'est, je crois, très important. On peut aimer l'ami parce qu'il m'aime ou parce qu'il est, lui, telle personne. Si j'aime l'ami parce qu'il m'aime, mon amitié devient mesurée par l'amour qu'il me rend. Et si un jour j'ai l'impression qu'il m'aime moins, mon amitié va diminuer. Elle va perdre son intensité. Et par le fait même, à la place de réveiller l'ami qui dort un peu, je vais le laisser dormir. Oui, ça explique tous les divorces. Oui, c'est l'immanence qui l'emporte. Tandis qu'en... pour lui-même, comme une personne que j'ai choisie, il y a toujours en lui quelque chose qui me dépasse, qui est mon bien. Le bien, c'est toujours quelque chose qui me dépasse. Oui, c'est la différence entre l'amour que j'ai pour le bien et le bien. Ça, c'est le réalisme à l'intérieur de l'amour. Et le réalisme à l'intérieur de l'amour permet justement à l'amour d'amitié de garder tout son réalisme. C'est en ce sens-là que pour Descartes, il n'y a plus d'amour d'amitié. L'amour d'amitié n'existe plus dans la philosophie de Descartes. Ça ne peut pas exister, puisqu'on reste dans l'immanence de l'idée. Vous comprenez que je ne peux pas aimer une idée. J'aime un être vivant. Je l'aime en tant qu'il est vivant de telle manière pour moi. Il est vivant dans sa sensibilité. Il est vivant dans son imagination. Parce qu'il y a des êtres qu'on aime, c'est tellement imaginatif. Dès qu'on est à côté, tout de suite, oh, c'est un poème. Et chaque jour, c'est un nouveau poème. Un nouveau dialogue platonicien. C'est merveilleux. Platon devait être comme ça. Chaque année, il pondait son dialogue. Et donc, il y avait quelque chose de nouveau. Il y avait un nouveau mythe. C'est merveilleux, des amis, qui ont des nouveaux mythes. Il y a un nouveau monde. Alors, je l'aime en fonction de son imagination. Je l'aime en fonction de sa qualité intérieure, sa qualité personnelle. Vous voyez, je l'aime pour lui-même. C'est ça le propre de l'amour d'amitié spirituel. J'ai dit spirituel. Et quand j'ai dit spirituel, c'est pas du tout universel. C'est pas abstrait, c'est concret. C'est cet homme que j'aime, c'est cette personne, c'est cette femme que j'aime. C'est concret, c'est elle qui est mon bien. Là, je touche le réalisme. Et je touche, si vous voulez, le premier moment où je découvre ce que c'est que la personne humaine. C'est dans l'amour d'amitié que je découvre en premier lieu ce que c'est qu'une personne, c'est-à-dire un certain absolu, et une certaine autonomie, au sens très fort. Vous voyez, je ne peux pas, vous voyez, quand on parle au point de vue psychologique de l'amour captatif, on voit très bien ce que c'est. L'amour captatif tue l'amour. parce que ça l'enferme dans l'immanence. Je t'aime dans la mesure où tu es pour moi source de plaisir. Je t'aime dans la mesure où tu es pour moi source de joie. Je t'aime dans la mesure où ta présence me réjouit. Alors on ne le dit pas, on le vit. Et ça, c'est l'amour captatif. Et vous voyez qu'à ce moment-là, il n'y a plus de réalisme de l'amour. C'est l'immanence de mon amour qui relativise l'ami. L'ami est relativisé à mon immanence d'amour. Et je ne l'aime plus tel qu'il est. Et à ce moment-là, vous voyez, j'idéalise. Non pas l'ami, mais moi. C'est moi que j'idéalise. Et au fond, en réalité, c'est moi que j'aime. C'est plus du tout l'ami. Puisque je l'aime en fonction qu'il m'épanouit, qu'il me donne de la jouissance, qu'il me donne de la joie. Je peux très bien l'aimer pour lui-même et savoir qu'il me donne de la joie. Ça va très très bien. Cette petite distinction que fait Aristote, qui est très importante, on la retrouve ici. Aristote, la philia grecque, hein. C'est très difficile à traduire. La philia grecque, moi je la traduis aujourd'hui, amour d'amitié, exprès. Et je ne dis pas seulement amitié, je dis amour d'amitié. Parce que toute amitié vraie implique un amour. Et un amour qui grandit en fonction de l'amitié. Aristote fait cette distinction que saint Thomas a repris. Hein. L'amour d'amitié parfait, qui fait que j'aime l'ami pour lui-même. C'est ça l'intérêt. Et non pas pour moi. Je l'aime pour lui-même. C'est lui que j'aime. Donc, même si un jour je le trouve très fatigué, un peu la fleur fanée. Ça existe quand vous la voyez, des fleurs fanées. Mais elle reste une fleur. Si elle est fanée, elle a été fleur. Ou bien bourgeon. Promesse. Alors, si on l'aime pour lui-même, même si un jour il est fatigué, il ne m'accueille plus tout à fait de la même façon. Je suis capable de dépasser ce conditionnement pour l'aimer lui-même. C'est là le véritable amour. On l'aime pour lui-même. Et non pas en fonction du conditionnement dans lequel je l'aime. Il y a l'amour utilitaire. J'aime l'ami pour l'efficacité. Il est merveilleux. Oui, j'aime l'ami comme un instrument. Alors, je ne dis pas que c'est un instrument, mais pour l'efficacité. J'aime l'ami au point de vue de la jouissance ou de la joie. Très spirituel, quelquefois. Mais c'est encore moi. Vous voyez, voilà les deux amours captatifs. En fonction de l'utilité, en fonction d'une affectivité qui ne sort pas de la jouissance, qui ne dépasse pas. Là, je ne dépasse pas le conditionnement. Je reste enfermé dans le conditionnement. Efficace et affectif. Et là, le dépassement, j'aime l'ami pour lui. Là, j'atteins sa personne. Alors comprenons bien, ne séparons pas ce qu'on distingue. Le véritable ami, c'est celui qui me donne la plus grande joie. Et le véritable ami, c'est le serviteur par excellence. Je peux tout lui demander. Il me dépannera tout le temps. Mais quand je lui demande quelque chose, je ne lui demande pas en fonction de l'efficacité. Je lui demande parce que je m'appuie sur lui. C'est tout à fait différent. Tandis qu'au contraire, quand j'ai un ami uniquement dans l'ordre utilitaire, oui, l'amitié des voleurs, des brigands, j'aime celui-là parce que n'importe quelle frontière, quelle serrure, pff, il passe à travers. Il est comme un corps glorieux. Alors je l'aime, c'est merveilleux. Il a des secrets, il pénètre tout de suite. Il est habile, il est d'une virtuosité extraordinaire. Vous savez, c'est le fort en thème et le fort en version. Alors on s'allie. Oui, c'est une espèce d'alliance utilitaire dans l'ordre de l'efficacité. C'est très utile, mais ce n'est pas un ami. On est lucide. Il sera capable de jouer les tours les plus pendables. Le jour où je ne lui serai plus utile. Parce qu'il me connaît. Et il sait très bien ce que je suis. On a fait beaucoup de choses ensemble. On a coopéré ensemble. Vous voyez ? L'amour d'amitié demande la coopération. Mais quand la coopération est regardée pour elle-même, dans l'ordre de l'efficacité, l'efficacité devient rivale de l'amour. Ça se fait très vite. L'efficacité devient rivale de l'amour. Et alors, les brisures dans l'amitié de l'efficacité deviennent terribles. Et c'est la même chose pour la jouissance. C'est très curieux. On passe vite à la haine. Quand un ami ne me donne plus la jouissance que j'attends de lui, il y aura très vite une haine. Tandis que le véritable amour d'amitié est au-delà de la haine. Parce que je l'aime pour l'autre. Oui, alors on voit très bien l'amour captatif et l'amour oblatif. Quand on aime l'autre pour l'autre, c'est oblatif. Je l'aime pour lui. Et je sais qu'il m'aime pour moi-même. Alors ça, c'est magnifique. C'est là le véritable amour d'amitié. Ça aussi, hein, l'amour d'amitié se conquiert. Le coup de foudre n'est pas l'amour d'amitié. C'est un point de départ. Il faut le tonnerre comme point de départ. Il faut l'éclair. Ce n'est pas l'amour d'amitié. L'amour d'amitié se conquiert lentement. C'est fondamental. Eh bien, l'amour d'amitié va me faire découvrir un type de liberté. Les amis sont libres. C'est très curieux, ça. Ils acquièrent une liberté l'un par rapport à l'autre. Et c'est avec leur ami sont le plus libres. Alors, on va essayer de comprendre quel est ce type particulier d'amour libre dans l'amour d'amitié. Et je dis bien d'amour libre ou d'acte humain libre, si vous aimez mieux. C'est un acte volontaire qui se noue autour du choix. La proairesis stoïcienne, mais elle n'est pas du tout stoïcienne. Je comprends. C'est intéressant de voir le nœud. C'est autour du choix. Mais réfléchissez un peu à l'expérience même d'un amour d'amitié. On commence à voir une personne. On s'approche. Des tas de... Et là, joue tout un contexte. Je ne veux pas entrer là-dedans. Tout un contexte, mes amis, nos amis, vous savez, cette personne qui connaît bien cette personne, tiens, on va essayer de savoir par là. Alors on dira quels sont ses sentiments pour moi, vous voyez. Et quand on dit ça, ça veut dire quel est son regard sur moi. Et à un moment donné, quand le fruit est mûr, on choisit. Je te choisis. Je t'aime, je te choisis comme ami. Déclaration. l'amour d'amitié réclame le choix. S'il réclame le choix, il réclame qu'on se dise ami. On ne peut pas rester souterrain. Il y a une déclaration. Tandis que l'artiste ne déclare jamais son œuvre. Tu es mon œuvre. Jamais. D'abord, l'autre ne répond pas. On voudrait bien qu'il réponde. Vous voyez, mais il ne répond pas. Mais c'est une très très grosse différence. C'est un lien de deux personnes qui peuvent répondre. Il y a une réciprocité. Dans tout amour d'amitié, il y a une réciprocité. Et tant qu'il n'y a pas la réciprocité, il n'y a pas la liberté. On poursuit quelqu'un. Oui. On est aux aguets. Ah, cette personne m'intéresse. Oui, ça peut. Des intellectuels, c'est ça. Ça m'intéresse. Oh oui, oui, il y a quelque chose en elle. Je ne trouve pas chez les autres. Oui, alors c'est peut-être très bien le point de vue de la connaissance, l'originalité, quelque chose d'unique. Ça, c'est les motifs. Mais quand je choisis l'autre pour lui-même. Et c'est dans ce choix réciproque. Que la liberté va naître. Parce que si je le choisis, je t'aime, puis l'autre dit oui, oui, très bien, mais il ne dit rien. Il ne va pas dire moi, c'est moi. Mais je ne t'aime pas encore. Non, on ne dit rien. Et on comprend tout de suite. Parce que c'est un appel. Quand on dit je t'aime, c'est un appel, c'est un cri d'appel. Qu'attend la réaction quand il n'y a pas de réaction. Ça tombe. Allez, le soufflet au fromage. Alors que ça a monté très haut. Il y a une chute verticale. Ça dégringole. Alors on se dit, oh, très bien. On s'en ira un peu triste. Bien. Mais si on aime vraiment, on prendra un autre chemin. Différents chemins qui conduisent au point central, puisque le cœur humain est une forteresse. Et il faut cette forteresse. Évidemment, quand on reçoit la poids qu'on a touché la forteresse, pas très drôle. Hein. Quelqu'un dit oui, oui. Oh oui, je m'intéresse beaucoup à toi. Oh oui, c'est très vrai. Mais alors, vous voyez, c'est une amitié qui se fait au niveau de l'intérêt. C'est pas encore l'autre. Et quand l'autre vous dit, il ne répond pas, vous n'êtes pas libre. Vous avez aimé. Vous avez déclaré que vous aimiez. Il n'y avait pas encore cette liberté. Parce que vous êtes poussé. L'amour comme tel, l'amour premier, le premier amour, hein, souterrain, s'impose à nous. Il s'impose à nous. On ne dit pas du tout qu'il est libre. Pourquoi j'aime telle personne, telle autre? Pourquoi Jacob, quand il est venu au puits et qu'il a vu Rachel, il l'a aimé. Il n'a pas dit je suis libre de t'aimer. Oh, pas du tout. Je t'aime. Pas la peine d'analyser, ça ne s'analyse pas. L'amour refuse l'analyse. C'est pour ça que les gens qui raisonnent de trop ne touchent jamais l'amour. L'amour est au-delà de la logique. Il n'y a pas d'amour dans la logique, au sens absolu. Je ne peux pas aimer l'être de raison. J'aime une personne. C'est une personne humaine que j'aime. Et une personne existant. L'amour qui se porte sur un bien, le bien est toujours existant. Le bien n'est pas un idéal. Au sens strict, je ne peux pas aimer un idéal. Je suis séduit par un idéal. Je ne peux pas pas dire j'aime un idéal. Parce que l'idéal ne répond pas, parce qu'il est l'idéal. Donc il est toujours quelque chose de lointain. Alors qu'une personne que j'aime, elle est proche, du fait même que je l'aime. Il y a une connaturalité. Le premier amour, vous voyez, le duvet, qui est la chaleur du nid, et qui est la chaleur de notre cœur. Cette petite étincelle brûlante qui fait que mon cœur commence à brûler, c'est quelque chose qui s'impose à moi. Mais je suis libre de l'accepter ou de ne pas l'accepter. Ça, oui. Parce qu'on est conscient quand même. On est conscient qu'on est attiré par telle personne. Donc on peut l'accepter ou pas l'accepter. Et c'est dans la mesure où je l'accepte que progressivement, il y aura dans cette acceptation de l'amour, l'intelligence qui va éclairer cet amour pour que cet amour devienne un choix qui se porte sur une personne. Et c'est pour ça que l'amour d'amitié n'est pas le coup de foudre. Le coup de foudre est le point de départ. Quelque chose qui s'est imposé à moi. Et l'amour d'amitié, au contraire, lui, est libre. Je te choisis librement. Et on dira ça, je te choisis au milieu de 10 000 personnes. Et pour montrer que je t'aime, je quitte tout mon milieu. Quitte tout ça, c'est toi que j'aime. Le monde peut s'écrouler, tu es là, suffisant. Tu es mon bonheur. C'est ma vie. Depuis que je te connais, tout est changé. Alors on peut dire ça au niveau passion, on peut dire ça au niveau imaginatif, mais on peut dire ça aussi de façon beaucoup plus profonde, d'une façon spirituelle. C'est tout un engagement humain qui me prend. Et là, je suis libre. Et vous voyez, pour bien manifester cette liberté, je montre par comparaison. C'est pas ça l'amour. L'amour refuse la comparaison. Mais pour exprimer le choix, je compare. Je pourrais choisir, tu vois, toutes les personnes que je pourrais aimer. Non, c'est toi que j'aime. Toujours ça pour exprimer la liberté de l'amour. L'amour, quand il est parfait, est libre. Comme c'est curieux. Il est libre, mais attention, il a commencé par une nécessité. Le premier amour s'est imposé. C'est imposé comme une chose nécessaire, que je puis accepter ou refuser. Donc, si j'analyse bien ce choix d'amitié, où je trouve une liberté d'un caractère tout à fait particulier, puisqu'il se réalise dans la réciprocité. Encore une fois, la liberté de l'artiste ne se réalise pas dans la réciprocité. Et donc là, il y a là quelque chose de tout à fait nouveau. Il ne faut surtout pas confondre ces deux amours. Ces deux libertés. Surtout pas les confondre. Vous voyez, et c'est la critique que je fais à tous les philosophes modernes, c'est qu'ils ne discernent pas entre la liberté de l'artiste et la liberté de l'ami. Et alors à ce moment-là, ça devient très, très dangereux. Pour Sartre, sa liberté, c'est la liberté de l'artiste. On se demande si Sartre a aimé de sa vie. C'est un artiste. Ah oui, on le voit bien dans son théâtre. Ce qui est le plus grand chez Sartre, je crois que c'est son théâtre. Son théâtre en quelque chose, oui. Tandis que Gabriel Marcel, c'est juste l'inverse, c'est un amoureux. Et quand il est artiste, il est amoureux. C'est toujours la personne aimée absente qu'il cherche. Même dans son théâtre. C'est pour ça que c'est si ennuyeux. Le théâtre de Gabriel Marcel est un ennui mortel. Lisez une fois, c'est intéressant. Une pièce de Gabriel Marcel et une pièce de Sartre, vous verrez tout de suite la différence. L'un est un artiste, l'autre est un amoureux. Un amoureux n'est pas nécessairement artiste. Qu'il sache qu'il est amoureux, c'est très grand d'être amoureux. Mais ne confondons pas les deux. Ne confondons pas les deux. Comprenons que dans le cœur de l'homme et dans l'intelligence de l'homme, il y a deux choses différentes. Et la confusion qui se fait, je crois, depuis Épictète, c'est vieux, hein ? La confusion entre ces deux libertés fait que on ne sait plus ce que c'est que la liberté. C'est pour ça qu'on doit reprendre, voyez, à la racine, l'acte libre de l'artiste, l'acte libre de l'ami. Alors, j'analyse en 2 minutes ce que c'est que t'as l'amour libre de l'amour d'amitié. L'amour d'amitié implique que ce soit libre. C'est un amour libre. Je te choisis, c'est un choix personnel qui porte sur l'ami comme tel, pour lui-même. Et ce choix personnel ne pourra être parfaitement lui-même et se développer dans une liberté totale que s'il rencontre le choix de l'autre. Je dis bien que s'il rencontre le choix de l'autre, mais ce n'est pas le choix de l'autre qui spécifie son amour. Son amour est spécifié par l'ami et non pas par le choix de l'autre. Ça, c'est là le caractère très subtil, parce que dans le vécu, on a l'impression que les deux choses se tiennent. Mais dès que j'analyse au plan philosophie éthique, parce que là je suis en philosophie morale, en philosophie humaine, si vous aimez mieux, pour ne pas mettre au point de vue moral. Parce que pour nous, le point de vue moral, l'amour d'amitié est au-dessus de la morale. C'est sûr. Il la finalise. Il est au-dessus. Mais il est humain. Et le point de vue moral grand est humain. Mais il y a quelque chose qui dépasse, hein, comme toujours l'amour. La morale se fonde sur l'amour, mais l'amour est au-dessus. Et l'amour, et le point de vue moral est pour que l'amour d'amitié puisse être pleinement lui-même. Donc ce choix personnel porte sur la personne, mais il ne peut s'épanouir pleinement que quand il rencontre le choix personnel de l'autre. Et le choix personnel de l'autre est comme une condition nécessaire pour que ce choix amical puisse s'épanouir dans une totale liberté. On est libre, pleinement libre, qu'en face d'un ami, qu'on sait qui est notre ami et qui nous a choisi comme ami. Autrement, je ne suis pas totalement libre. Mais c'est l'amour qui engendre la liberté. Vous voyez, l'inspiration engendre la liberté de l'artiste. Et l'amour engendre la liberté de l'ami. Ça que je crois est très important à souligner. Il y a 2 sources dans la liberté. Il y en aura peut-être une troisième. Hein. Il y en a 2 ici. L'inspiration, pas n'importe quelle connaissance. La connaissance géométrique n'engendre pas la liberté. Il n'y a qu'à regarder un matheux. Non, pas du tout. C'est la connaissance artistique dans l'inspiration qui engendre la liberté chez l'artiste. Et ici, c'est l'amour. C'est l'amour qui engendre cette liberté dans ce choix. Et j'exprime dans ce choix amical, dans ce choix personnel. Et j'exprime cette liberté par le point de vue de la préférence. Je t'ai préféré à tous les autres. Et quand on aime quelqu'un, on le met en vedette. Pour nous, pas sur la place publique. Puisque c'est le secret de notre cœur. C'est vrai, un choix amical est un secret. Donc, il engendre en nous un silence. Mais si je veux exprimer la qualité de ce choix, je prends le point de vue de la préférence. Je compare aux autres. Tous les autres ne sont rien à côté. Vous voyez, l'élément comparaison manifeste, mais ne constitue pas le choix. On dira pas, je t'ai aimé parce que, comme veux-tu, tu es le dernier reste. J'ai fait une enquête. Bon, en définitive, c'est encore toi qui es le mieux. Vous voyez, c'est l'ordinateur qui me dit ça. Tu es le mieux, parce que tu as une qualité que les autres n'ont pas, donc faut que je t'aime à cause de ça. Non, ça ne va pas du tout. C'est pas ça. Je t'aime parce que c'est toi. Et il n'y a pas de raison. Le cœur a des raisons que la raison ne connaît pas. Mais cependant, l'intelligence est présente. C'est pas aveugle quand on dit que l'amour est aveugle. Mais non, il est lumineux par rapport à la personne que j'aime. Et cette lumière se manifeste du fait même que je dis que je t'aime plus que tous les autres. Je le manifeste. Ça, c'est l'intelligence qui manifeste. Toujours l'intelligence manifeste. L'amour intériorise. L'amour conduit au secret. C'est pour ça que je peux dire deux choses, voyez ? Que je manifeste mon amour et la liberté que j'ai dans ce choix amical en comparant avec tous les autres. Et en même temps, l'amour m'enracine au plus intime de moi-même. Tu es mon trésor, tu es mon secret. Et personne ne le saura. Parce qu'il y a un secret. Dans toute amitié, il y a un secret. Le secret, nous, de personne. Et le secret qui exprime la connaissance. Hein. Le secret d'une connaissance. Le secret, c'est l'ami. C'est la personne de l'autre qui est mon ami. C'est ça le secret. C'est pas les petits secrets à côté. Les petits secrets à côté, les petits secrets du concierge, vous voyez, c'est pas ça qui constitue l'amour d'amitié. C'est la personne elle-même. Alors je vois que la connaissance est présente, mais totalement au service de l'amour. Cet amour d'amitié.